le magazine des Nations Unies.
Bon dimanche à tous et bienvenue au magazine des Nations Unies. L'actualité de cette semaine reste dominée par la situation des droits de l'homme en RDC. Deux rapports, dont l'un des Nations Unies et l'autre d'un réseau d'ONG de défense des droits de l'homme, ont été présentés dans la capitale. Les détails dans l'actualité de la semaine et la rubrique L'invité avec Scott Campbell, directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. Le journalisme d'investigation, c'est le concept clé qu'un expert de l'UNESCO décrypte pour vous aujourd'hui avec Honoré Missinga, après un atelier organisé autour de ce thème mardi dernier à Kinshasa. Nous irons enfin à Mbandaka, à l'Équateur, où la clinique juridique de cette ville fait ses premiers pas. Une mission du BCNUDH a évalué ce projet brésilien dans le cadre de la lutte contre l'impunité des auteurs de violences sexuelles.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Présentation mercredi dernier du nouveau rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Dans ce document, le BCNUDH fait état de 264 exactions arbitraires par des groupes armés d'avril à septembre 2012 à Massissi dans la province du Nord Kivu. Ce rapport présente également le résultat de 6 missions d'enquête et de plus de 160 entretiens avec les victimes et des témoins. Scott Campbell, directeur du BCNUDH et représentant de la Haut-Commissaire aux droits de l'homme, revient ici sur le résultat de ce rapport et l'extrême violence qui a été à l'origine de ces exécutions arbitraires. Il est au micro de Jean-Pierre Elali Coco.
Suivant 6 missions d'enquête dans cette zone, ces différents groupements, notre bureau est en mesure de confirmer les exécutions arbitraires d'au moins 264 personnes, la grande plupart par les combattants des Raia Mutomboki et les Maïmaï Kifuafua, et d'autres aussi par les combattants de la FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda et les Nyatura. Il y a eu aussi d'autres violations graves des droits de l'homme, dont les atteintes à l'intégrité physique, y compris des viols, des destructions et pillages d'habitations et des déplacements forcés de civils par les mêmes groupes armés et dans les mêmes groupements notés. Les violations commises par les groupes armés, telles que décrites dans ce rapport, ont été commises avec une extrême violence. Plusieurs victimes ont été tuées après avoir été frappées avec des machettes, souvent au niveau du dos, de la nuque, de la tête. D'autres civils ont été brûlés vifs dans leur maison. Et les victimes, malheureusement, sont pour la plupart des enfants, des femmes et des personnes âgées. Tout au long de la période des attaques, des villages entiers ont été incendiés et détruits à la fois par les Nyatura en coalition avec les FDLR et par les Raia Mutomboki. Des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées en raison de violences.
Scott Campbell est justement notre invité du magazine. Vous suivrez l'intégralité de cet entretien tout à l'heure dans la rubrique Invité. Restons dans le chapitre des droits de l'homme pour rappeler qu'un autre rapport sur le droit de l'homme en RDC a été publié mardi 13 novembre par le réseau national des ONG de droits de l'homme, RENADOC. Ce document est intitulé « 6 mois après l'investiture du gouvernement Matata Ponyo, quel bilan sur l'échiquier des droits de l'homme ?» Il fait état de la dégradation de la situation des droits de l'homme en RDC depuis la tenue des élections présidentielles et législatives de novembre 2011.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Une centaine de journalistes de différents médias de Kinshasa ont participé mardi 13 novembre à un atelier sur le journalisme d'investigation. But de cette formation, répondre à la problématique de la qualification des journalistes professionnels en matière du journalisme d'investigation et permettre aux professionnels de la presse congolaise de participer à la promotion de la bonne gouvernance par des enquêtes poussé sur des sujets d'intérêt public. Le bureau de l'UNESCO Kinshasa a organisé cet atelier. Honoré Missinga s'est entretenu avec Joseph Potopoto de cette agence. Il décrypte pour vous le concept journalisme d'investigation. Joseph Potopoto est administrateur du programme communication et information à l'UNESCO.
Joseph Potopoto, bonjour.
Bonjour Honoré.
La semaine dernière, près de 100 journalistes de Kinshasa ont pris part à un atelier sur le journalisme d'investigation sous le thème Enjeux, défis et perspectives. Atelier organisé bien entendu par le bureau de l'UNESCO Kinshasa. Et déjà en 2009, votre agence avait publié un manuel des techniques de base du journalisme d'investigation. Alors Joseph, qu'entendez-vous par journalisme d'investigation et en quoi se distingue-t-il d'autres approches journalistiques?
Bien, merci. Le journalisme d'investigation, c'est un genre journalistique qui existe sous d'autres cieux. Nous considérons le journalisme d'investigation comme étant un journalisme qui consiste à exposer au public des informations qui sont souvent cachées, considérées comme confidentielles, délibérément d'ailleurs. Il y a des questions que l'on considère parfois comme sensibles et qui ne sont pas, semble-t-il, à la portée de tout le monde. Et pourtant, leur population, le public a droit à l'information. Donc il faut absolument que ces questions-là soient traitées par les journalistes. Et à la différence du journalisme qui nous considérons comme les journalismes conventionnels, les journalistes d'investigation demandent beaucoup plus d'action de la part du journaliste qui, en quelque sorte, agit comme un enquêteur. Alors que le journalisme normal, souvent, dépend en grande partie et parfois entièrement des infos qui sont fournies par d'autres sources. Donc en journalisme normal, le journaliste est un peu comme passif, mais en journalisme d'investigation, il est actif, donc il est un enquêteur. Voilà la différence majeure. Il y a aussi certaines différences qui se situent au niveau même de la pratique, au niveau de la recherche, au niveau des relations avec les sources, au niveau des résultats. La recherche, elle est rapide, hein, lorsqu'on fait du journalisme classique. Par contre, lorsqu'on fait du journalisme d'investigation, la recherche prend du temps. Vous devez vous documenter suffisamment pour réunir tous les éléments qui confirment le fait ou les informations que vous cherchez à publier.
Monsieur Potopoto, pourquoi le journalisme d'investigation intéresse tant l'UNESCO?
Nous avons considéré à l'UNESCO que le journalisme d'investigation, c'est un genre journalistique qui permet souvent aussi de changer la société. Il y a des phénomènes devant lesquels la société parfois se montre impuissante. Mais lorsqu'un journaliste s'implique en essayant d'enquêter sur tel ou tel autre phénomène, je crois qu'il y a moyen de trouver une solution. On a pris un exemple le plus frappant au cours de cet atelier, le phénomène de prostituées. On a fait allusion à un journaliste belge qui avait enquêté sur un phénomène des prostituées. Et chaque fois qu'il revenait de son travail, il voyait des prostituées qui étaient toutes de pays de l'Europe de l'Est. Il a cherché à comprendre pourquoi seulement les filles de l'Europe de l'Est. Et finalement, en essayant d'aller en profondeur, en essayant d'enquêter, il a pu découvrir que c'était un phénomène de trafic des êtres humains. Il y avait derrière ça un réseau qui encourageait la prostitution des mineurs, etc., etc. Et cela a permis d'ailleurs à l'État, la Pologne, de pouvoir faire des changements. Donc voilà pourquoi nous considérons à l'UNESCO que ce genre journalistique est important. Il apporte beaucoup de solutions aussi face à certains phénomènes de société.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un RDC dans l'actualité passée ou présente des faits qui auraient fait l'objet d'une investigation par les médias?
Absolument, absolument, dans tous les domaines, même politique, économique, surtout les faits liés à la corruption. On parle de Kuluna, de phénomènes de société. Donc je crois que ce sont des sujets qui peuvent intéresser les journalistes, parce que pour trouver un sujet en rapport avec ces genres journalistiques, il faut d'abord observer les médias, ce qui se dit dans les médias. Il faut voir aussi autour de son environnement ce qui se passe. Donc il y a énormément de sujets qu'on peut exploiter ici en RDC.
Oui, par rapport à cette approche, on ne pensait pas que c'est quand même un risque pour celui qui se mettrait dans une investigation d'un problème donné.
Effectivement, il y a beaucoup de risques. D'ailleurs, au cours de l'atelier, nous l'avions dit aux amis. On a essayé de voir un peu l'enquête d'un journaliste de Al Jazeera qui avait fait une enquête dans son pays et qui, en tirant les leçons de son travail, avait trouvé qu'il y avait beaucoup d'ennuis et des risques dans l'exercice de ce genre journalistique. Il y a aussi des ennuis au niveau de la sécurité personnelle. Nous avons même suivi au cours de l'atelier des journalistes qui ont essayé d'enquêter sur un certain nombre de faits ici à Kinshasa et qui ont reçu des menaces, des coups de fil, etc., etc. Il y a aussi sur le plan culturel, est-ce que les gens comprennent réellement ce qu'un journaliste d'investigation, est-ce qu'on ne le confond pas avec un flic, avec un espion? Ce sont des ennuis, des risques liés aux médias.
Il y a également les moyens. Le journalisme d'investigation implique énormément les moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là?
C'est l'une des difficultés les plus importantes parce que les journalistes d'investigation exigent vraiment beaucoup de moyens. Il y a un journaliste congolais qui nous a dit qu'il était confronté à des personnes qui étaient disposées à lui donner telle information, mais moyennant X montant. Il y a aussi parfois des moyens liés au déplacement, à l'acquisition de matériel. C'est un travail qui demande des moyens, effectivement. Mais je crois que il faut quand même les commencer quelque part. Il y a certains phénomènes sociaux sur lesquels on peut investiguer sans forcément qu'on vous demande beaucoup plus de moyens. Ce qui compte le plus, c'est la volonté, c'est l'engagement du journaliste à faire son travail. Parce qu'à la fin, un média ou un journaliste qui s'investit dans ces genres journalistiques, souvent, il a beaucoup plus de considération. C'est vrai qu'en dépit des risques et de tout ce qu'on peut dire, c'est un genre journalistique qui vaut la peine d'être pratiqué.
Et comment l'UNESCO et RDC entend contribuer à l'émergence d'une presse d'investigation? En RDC, bien sûr.
L'UNESCO a une politique d'appuyer ses États membres en termes de renforcement des capacités de professionnels de médias. Nous ne pouvons le faire que par des formations. À la faveur de ces manuels que l'UNESCO vient de publier, c'est toute une approche méthodologique, académique et pédagogique du journalisme d'investigation que nous allons vraiment essayer d'apporter. Nous avons des contacts nourris avec l'IFASIC, l'Université de Kinshasa, ou même l'Université catholique au Congo, où on enseigne le journalisme. Et nous pensons qu'il va être possible, avec ces écoles, de pouvoir justement préparer des modules de formation, non seulement pour les étudiants, même pour les journalistes qui sont déjà en plein exercice de leur profession. L'UNESCO va poursuivre sur cet élan, c'est-à-dire que ça fait partie de notre programme. D'ailleurs, nous en avons même parlé avec le siège à Paris. Nous avons fait rapport de cet atelier et on nous encourage à pouvoir y aller, surtout qu'avec le manuel qui vient de sortir, qui présente plusieurs études de cas d'expérience menées dans plusieurs pays, je crois que ça va permettre aussi à nos journalistes de la RDC de comprendre que les autres le font et eux aussi, ils sont capables de le faire.
Monsieur Joseph Potopoto, merci.
Merci, Honoré.
Près de 3500 ménages du territoire de Madimba au Bas-Congo ont reçu la semaine dernière des intrants agricoles de la FAO, ce dont leur permettra d'améliorer leur situation socio-économique. Les intrants constitués notamment de plus de 10 000 houes et machettes, 50 tonnes de semences vivrières et maraîchères et plus d'un million et demi de mètres linéaires de boutures de manioc et de cordes apicales de patates douces. Ces ménages ont été affectés par les inondations de décembre 2011. Dans le domaine de l'humanitaire, le PAM, Programme Alimentaire Mondial, distribue depuis le mercredi 14 novembre les coupons alimentaires d'une valeur $1,300,000. Ces fonds destinés à près de 80 000 déplacés de Minova et Buremana à environ 50 km au sud-ouest de Goma, dans le Nord Kivu. Cette aide couvre les besoins alimentaires des bénéficiaires pendant 30 jours. Enfin, des experts du ministère congolais des Affaires étrangères ont évalué le rapport national de mise en œuvre du programme d'Istanbul sur les pays les moins avancés du 15 au 16 novembre à Kinshasa. Ce rapport a été présenté avec le soutien technique du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD en sigle.
Magazine des Nations Unies.
Nous évoquions tout à l'heure la publication d'un nouveau rapport sur l'état des droits de l'homme à Masisi, dans le Nord Kivu. 264 exécutions arbitraires, de nombreuses exactions, des centaines de déplacés et des villages incendiés. C'est le bilan sombre que présente ce document assorti de recommandations. Pour en parler, Jean-Pierre Elali Coco reçoit Scott Campbell, directeur du BCNUDH.
Monsieur Scott Campbell, bonjour.
Bonjour.
Le bureau conjoint vient de publier un rapport sur les violations graves des droits de l'homme à Masisi. Quelles sont ces violations?
Bon, ces violations sont des violations graves commises à l'égard des civils, des violations commises par les groupes armés. Les violations elles-mêmes, il s'agit principalement des exécutions arbitraires, des violations aux droits l'intégrité physique, y compris donc la violence sexuelle, et aussi la violation aux droits de propriété, et aussi de déplacement forcé.
Les rapports évoquent 244 exécutions arbitraires. Comment cela s'est-il passé?
Bon, le rapport relève 264 exécutions arbitraires qui ont été commises avec une violence très très aiguë. Souvent, les personnes tuées par machette, les personnes souvent les plus vulnérables étaient des victimes, donc ceux qui n'ont pas pu fuir les assaillants, et donc malheureusement il s'agissait de plus de 80 enfants, beaucoup de personnes aussi âgées et aussi beaucoup beaucoup de femmes.
Oui, Monsieur Campbell, ce n'est pas le premier rapport sur le droit de l'homme en RDC. Plus il y a des rapports et des recommandations, plus il y a des violations des droits de l'homme et de l'impunité. Comment expliquez-vous cela en République démocratique du Congo?
Je pense que c'est essentiel que les ONG de défense des droits de l'homme, que les Nations Unies et que les États membres des Nations Unies dénoncent d'une manière régulière les violations des droits de l'homme. C'est très important, c'est le premier pas de mettre fin à l'impunité, c'est de documenter et dénoncer des violations. Je pense que évidemment, il n'y a pas de solution facile à ce genre de problème. Ce sont des problèmes qui existent en RDC depuis très longtemps. Il y a certaines faiblesses au sein des institutions étatiques pour faire face aux causes profondes de ces problèmes. Il y a un problème de l'impunité. Il y a un problème d'une armée qui a besoin d'être mieux équipée, mieux formée, mieux disciplinée. Il y a des problèmes de la gestion de la richesse naturelle, plein de conflits autour de la gestion de la richesse naturelle du pays. Donc il y a plein de causes profondes. Un rapport de droits de l'homme avec des recommandations ne va pas faire arrêter des violations d'un jour à l'autre. Mais nous estimons que c'est très important de documenter d'une manière très précise ce qui se passe, donc la réalité, sur la nature très grave de ces violations pour attirer l'attention des autorités étatiques et aussi de la communauté internationale.
Vous parlez des recommandations tout à l'heure et une des recommandations a été faite à la justice congolaise. On a maintenant l'impression que cette justice n'est pas en mesure de mettre fin à l'impunité telle qu'on l'entend. Mais pourquoi le Haut Commissariat aux droits de l'homme ne préconise-t-il pas, par exemple, un tribunal pénal international pour la RDC?
Bon, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, dans son rapport de mapping qui était publié il y a à peu près 2 ans, a recommandé un mécanisme judiciaire spécial pour la RDC, mais pas une cour spéciale, mais plutôt quelque chose au sein des juridictions congolaises. Donc un mécanisme qui va servir à renforcer le système national de la justice pour faire face et traiter les crimes les plus graves qui ont été commis en RDC depuis longtemps, mais de ne pas créer un mécanisme parallèle au système actuel, mais plutôt un mécanisme qui va renforcer la justice sur le plan national. C'est une recommandation que nous avons fait, comme je disais, il y a 2 ans, et je pense que c'est une recommandation qui est prise au sérieux et qui est sous discussion par les autorités étatiques pour le moment.
Dans votre présentation de ce mercredi, vous avez évoqué un lien entre la présence de M23 à Rutshuru et les exactions qui sont commises à Masisi. Comment expliquez-vous ces liens?
Nous estimons qu'il y a un lien indirect mais très important entre le phénomène, la crise créée par le M23 et ce qui se passe dans le Masisi, comme ailleurs, dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, même oriental et le Nord du Katanga. C'est-à-dire qu'avec le début de la mutinerie M23, les forces de sécurité nationales, l'armée congolaise principalement, a dû se redéployer vers la zone de Rutshuru, dans le Nord Kivu, pour essayer de faire face, contenir le M23. En faisant ce redéploiement, il y a eu la création d'une certaine vide sécuritaire, notamment dans cette zone de Masisi.
Au sud de Masisi.
Masisi, effectivement, dans plusieurs groupements, Ufamandu, Niamaboko et d'autres. Et donc les groupes armés ont profité de cette vide pour essayer d'acquérir la terre des autres, de prendre certaines zones où il y a des mines ou bien la terre qui les intéresse. Et en faisant, ils ont commis des exactions très très graves à l'égard de la population civile. Donc nous estimons que le M23, en plus des exactions qu'eux-mêmes ils ont commis dans les zones qu'ils contrôlent, en nécessitant un redéploiement de la FARDC, des forces de sécurité nationales, ils ont créé une grande zone d'insécurité à l'est du pays. Et évidemment, les différents groupes armés, pas uniquement les Raia Mutomboki et les FDLR, mais plein d'autres, au sud Kivu, au nord du Katanga, même le LRA, en oriental, ils ont tous profité pour, par le manque d'une présence de l'armée nationale, pour essayer de gagner du terrain, pour s'enrichir.
Et dans votre rapport aussi, vous craignez une sorte d'escalade des conflits interethniques.
Tout à fait. Nous estimons que le conflit pourrait s'éteindre. Les causes plus profondes s'agit plutôt des conflits autour de la terre, du pouvoir politique ou du contrôle du pouvoir économique dans certaines zones.
Ok. Une dernière question. Vous avez communiqué ce rapport au gouvernement. Est-ce que vous avez reçu la réaction du gouvernement jusque-là?
Non, nous n'avons pas reçu. Nous avons bien sûr partagé le rapport avec le gouvernement. Je pense qu'ils sont toujours en train de traiter. Les recommandations principales envers le gouvernement sont de renforcer des actions prises en termes de déploiement de la FARDC, de l'armée congolaise, dans les zones affectées pour assurer la sécurité des civils et protéger la population, de redoubler, renforcer des initiatives de dialogue interethnique, de dialogue intercommunitaire pour essayer de réconcilier les différentes populations et d'assurer que les responsables de ces actes soient traduits en justice.
Monsieur Scott Campbell, je vous remercie.
Merci à vous.
Une mission du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a évalué la première phase du projet brésilien de lutte contre l'impunité des auteurs des violences sexuelles. L'évaluation a eu lieu à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, du lundi 12 novembre au mercredi 14 novembre. Conduite par Kanendeye, cette mission a eu pour but d'évaluer ce projet exécuté tant par les autorités judiciaires que par la clinique juridique de Mbandaka. Les audiences foraines ont été organisées par le tribunal de grande pour rapprocher la justice des justiciables. D'après Kanendeye, ce projet a eu un impact positif pour les victimes. On l'écoute au micro de Dominique Wolombi Mungampangé.
Une chose est claire, tous ses partenaires souhaiteraient que ce projet continue. Et je pense que nous avons fait une partie du travail et il reste beaucoup à faire. L'évaluation a montré que les autorités judiciaires ont pu quand même, avec l'assistance apportée dans le cadre de ce projet, descendre dans les endroits les plus reculés pour organiser des audiences foraines. Il y a un procès qui a eu lieu, plusieurs audiences. On a obtenu quelques condamnations, ce qui est positif. Du côté de la police aussi, ils ont toujours collaboré dans le cadre de ce projet. Donc l'évaluation a montré qu'on doit continuer ce projet en Équateur. Mais il nous reste à faire la partie Guémena et Badodité. Parce que les victimes ont confiance en nous et on peut en aucun moment les laisser à mi-parcours.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Professeur Michel Kisonama, actuellement professeur à l'Université Pédagogique Nationale. Et je suis l'assistant au représentant de la FAO, chargé des programmes de la FAO en République démocratique du Congo. J'ai fait les études primaires normalement dans la province orientale, mes études secondaires aussi dans cette même province orientale. J'ai obtenu un diplôme d'ingénieur agroéconomiste, si vous voulez, à l'Institut facultaire des sciences agronomiques de Yangambi. Après cela, j'ai obtenu un diplôme de troisième cycle à l'université de Jean Blou en Belgique. Et après cela, je suis docteur en économie agricole.
Je suis un ancien nouveau de l'AFAO. J'ai commencé ma carrière à l'AFAO. Lorsque j'ai quitté l'université, c'est l'AFAO qui était mon premier employeur. J'ai passé 3 ans avec l'AFAO à Kisangani, à Goma et à Bunia. Après, l'AFAO m'a recruté encore pour Kinshasa, où j'ai passé 3 ans. Là, maintenant, je suis revenu à l'AFAO. Au-delà de l'AFAO, j'ai été économiste national du CNUD, d'où je viens, pour l'AFAO. Mais j'ai travaillé aussi au programme international de conservation des gorilles. J'enseigne à l'Université pédagogique nationale. J'enseigne à l'Université catholique au Congo. J'enseigne à IFAD, Institut facultatif de développement. Et j'enseigne dans les provinces, à Kisangani, à Bunia, à Ituri et à Goma. Ma journée à l'AFAO, c'est toujours très chargé. Si j'arrive tard, c'est à 7h30, la lecture des mails, parce qu'il y en a une centaine qui arrivent chaque jour. Pendant la journée, je suis toujours entre des réunions où je représente mon organisation. Je peux dire que 30 à 40% de ma journée, c'est dans des réunions. Le reste, c'est le travail habituel, les signataires qui passent, la planification des programmes, le suivi des programmes, les autorisations de paiement, ainsi de suite. Mon temps libre, généralement, comme je n'en ai pas beaucoup, c'est souvent les week-ends et les soirs, c'est à la maison avec ma famille. Et de temps en temps, pour dire que c'est pas très fréquent, je peux aussi être quelque part en train de manger la viande des chèvres. Généralement, c'est à Bon Marché ou à Vandal. Le reste de mon temps libre, c'est beaucoup plus consacré à la lecture. J'aime aussi la musique. Par exemple, la musique de Koffi Olomide, Fali Poupa. Ça me fait rire. Je vais écouter, mais je ne suis pas un bon chanteur. Comme je suis agronome, j'ai déjà des activités agricoles que je compte vraiment développer. Ce que je rêve, c'est de devenir un grand fermier où je consacre presque tout mon temps à la ferme. Bon, un dernier mot, c'est juste de saluer ma femme et mes enfants. Voilà.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Je m'appelle Gayou Sichabile Pakitemutemu, suis journaliste à la radio Le Messager du peuple d'Ouvira, en séjour à Kinshasa. Ma question s'adresse au PAM. Au cours d'un atelier organisé récemment par l'UNICEF à Brazzaville, les participants notaient que la RDC est à la tête des pays d'Afrique centrale et de l'Ouest frappés par une malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans avec 43% des taux de prévalence. Quelles sont les stratégies mises en place par le PAM pour faire face à cette malnutrition chronique en RDC?
Merci pour votre question, Guy, de la radio Le Messager à Ouvira, dans le Sud Kivu. Pour vous répondre, nous avons joint au téléphone Kofi Akakpo, chargé d'études au PAM ici à Kinshasa. Kofi Akakpo, que répondez-vous à notre auditeur?
Oui, disons que d'abord la malnutrition c'est une question assez complexe. Pour donner une définition très simple de la malnutrition, c'est l'inadéquation entre les besoins en termes de calories d'un individu par rapport aux apports effectivement que l'individu consomme en termes de calories. Cette inadéquation peut être soit en excès ou bien être en défaut. Donc souvent le cas de la malnutrition dans les pays en voie de développement, c'est que l'apport énergétique par la voie de ce que nous consomme tous les jours ou bien que l'enfant consomme est inadéquat par rapport aux besoins de l'organisme. Donc, pour revenir précisément à la question de la malnutrition chronique, il est vrai que la RDC fait partie des pays africains où le taux de malnutrition chronique est le plus élevé. Mais pour pouvoir expliquer ce chiffre, donc disons que on doit répondre à la question quelles sont les causes de la malnutrition chronique. Donc d'une façon générale, les causes de la malnutrition chronique sont liées à l'état de développement d'un pays. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle les causes immédiates. Cela veut dire que bon, soit c'est les maladies qui touchent l'enfant, ou bien l'alimentation de l'enfant est inadéquate. Mais il y a des causes qui sont beaucoup plus lointaines, qu'on appelle des causes structurelles et qui remontent aux infrastructures, au manque d'infrastructures, par exemple, d'hygiène et d'eau. Vous savez qu'en RDC, il y a seulement 47% des ménages ont accès à l'eau potable, donc tout ça affecte si vous voulez, en le développement nutritionnel de l'enfant. Et les conséquences de la malnutrition sont assez dramatiques pour l'enfant, aussi bien pour l'enfant, mais pour la population d'une manière générale. Imaginez-vous que presque un enfant sur deux en RDC souffre de malnutrition chronique. Cela veut dire que la population qu'on aura demain sera une population d'anciens enfants malnutris. Donc cela affecte le développement économique du pays, cela affecte le développement cognitif de l'enfant. C'est pourquoi je disais que c'était vraiment très important de savoir d'abord les causes. Donc une fois que les causes sont connues, alors à ce moment, on pourra faire des interventions qui sont ciblées sur ces causes-là. Donc nous, au niveau du PAM, on a adopté une stratégie de prévention de la malnutrition, c'est-à-dire en intervenant spécifiquement sur les groupes, la tranche d'âge des enfants les plus vulnérables, c'est-à-dire les moins de 3 ans, les 6 à 35 ans, en leur donnant des alimentations enrichies et qui permettent d'apporter ce qu'il faut à l'organisme de l'enfant pour qu'il puisse assurer un développement normal. Mais encore mieux, on agit aussi sur les femmes enceintes et allaitantes en leur donnant des aliments qui sont des aliments riches pour permettre un développement normal de l'enfant dès le ventre de sa maman. Donc globalement, c'est une stratégie qui cible ces groupes vulnérables et on essaie de la mettre en synergie avec les autres acteurs qui interviennent sur la malnutrition en RDC, notamment l'UNICEF, la FAO, parce que il faut une approche multisectorielle de la malnutrition, puisque les causes sont également multisectorielles, donc il faut des approches multisectorielles.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
À vos carnets pour l'agenda de la semaine du 19 au 24 novembre 2012, une date à retenir, le 20 novembre, Le Monde célèbre la Journée internationale des droits de l'enfant, une journée qui intéresse particulièrement le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. C'est la fin de cette émission. Jean-Pierre, Elalie et Coco étaient à la coordination. Honoré Mistenga au reportage, sous la supervision de Nicole Ngaka et Mila Kimbwini à la présentation. Bon dimanche à tous.